restez avec nous parce que Déborah donc, va nous parler ici d'un mur.
D'un mur, et pas n'importe lequel. Alors déjà, autour de la table, avant que tout le monde s'en aille, qui a connu le mur de Berlin? Ah oui, il y en a quand même. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Hein. Et autour de la table, ça fait combien? Deux?
Trois.
Ah, ça fait 4. Avec moi, ça fait 5. Donc voilà, le mur de Berlin, petite carte d'identité pour commencer. Donc c'est un mur qui a vu le jour, la nuit. Déjà, c'est ballot. Du 12 au 13 août 1961. Alors c'était un mur d'une hauteur de 3,60 m et d'une longueur de 155 km. Et il fut démoli le 9 novembre 1989 quand monsieur avait 3 mois.
En Allemagne de l'Est, pour l'instant, les manifestations grossissent.
La foule s'est épaissie, les gens sont sortis des maisons et se sont joints au cortège. Ils sont déjà plus de 100 000.
Tür auf, ouvrez les portes, un cri repris de part et d'autre du mur lorsque des milliers d'Allemands, à l'Est comme à l'Ouest, ont appris l'extraordinaire nouvelle.
Alors ce mur séparait, en fait confirmait l'existence de deux Allemagnes, alors celle de l'Est et celle de l'Ouest, autrement dit la République démocratique allemande ou la RDA et la RFA, la République fédérale d'Allemagne. Alors un peu d'histoire, j'aime bien ça. Alors lors de la capitulation nazie en 1945, les alliés se partagent l'Allemagne. Alors les alliés, il s'agit de la Grande-Bretagne, des États-Unis, de la France et de la Russie. Et chacun va administrer une zone dite d'occupation. Mais l'Allemagne à ce moment-là est toujours un seul et unique État. Alors dès le départ, la capitale, Berlin, pose souci puisque c'est l'armée rouge qui a libéré la capitale du Troisième Reich et naturellement, elle l'occupe totalement, avec bon nombre d'exactions d'ailleurs en représailles à ce qu'a vécu le peuple russe durant la guerre. Alors très vite, même la capitale sera divisée en 4 zones, une pour chacune des nations gagnantes évidemment, mais ces zones ne seront pas tout à fait égales, les Russes occupent près de la moitié est de la ville. Alors très vite, dans les années d'après-guerre, l'entente entre les puissances victorieuses se détériore, surtout avec la Russie, je ne vous apprends rien. Et c'est donc le début de la guerre froide dont Berlin sera un des points d'ancrage, sinon de chantage. En 1948, Staline va instaurer le blocus de Berlin, qui sera contourné par un pont aérien mis en place par les États-Unis. Et suite à ça, l'Allemagne se sépare alors en deux blocs, donc d'un côté la RFA et de l'autre côté la RDA. Et Berlin va se retrouver totalement enclavé dans l'Allemagne de l'Est. Alors il faut savoir que Berlin a à ce moment-là déjà un statut particulier puisqu'elle reste quasi indépendante des deux États, même sous occupation. C'est une ville démilitarisée, non pas déminéralisée, démilitarisée, enfin, c'est très compliqué, bref il n'y a pas de militaires, allemands en tout cas, il y a des militaires évidemment alliés. Et la RDA va décider d'en faire sa capitale. Ce qui déjà n'est pas prévu dans le statut de Berlin, ce qui va déjà être mal vu par les puissances occidentales, mais il est scoulé. Alors très vite, beaucoup d'Allemands de l'Est vont fuir vers l'Ouest, aux grandes dames de l'Union soviétique, bien entendu, et des autorités est-allemandes. Et en 1952, ce qu'on appelait la frontière verte, donc c'était cette frontière fictive qui séparait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, cette ligne de démarcation sera une frontière de barbelés, ce qu'on va appeler le rideau de fer. Berlin reste alors à ce moment-là le seul point de fuite et ce sont des millions de personnes qui se massent pour passer à l'ouest. Il faut compter entre 2,6 et 3,6 millions d'Allemands qui vont fuir la RDA par Berlin entre 1949 et 1961. Alors cette immigration pose évidemment problème à l'Est, puisque la RDA perd du coup une grande quantité de main-d'œuvre, alors qu'on est toujours à l'heure de la reconstruction, et l'Allemagne, pour rappel, a quand même été littéralement dévastée et est en ruine après la guerre. Et puis aussi, gros souci quand même côté soviétique, c'est que ça montre le faible taux d'adhésion aux valeurs soviétiques, et ça fait un peu tâche pour un pays qui souhaite instaurer le socialisme soviétique au monde entier. Car en effet, comme tout pays communiste qui se respecte à ce moment-là, la RDA fonctionne en économie planifiée avec collectivisation des terres agricoles Mais dès le début, ça coince, ça ne marche pas comme prévu. Par manque d'investissement, la reprise industrielle panne, la collectivisation des terres agricoles entraîne une baisse de la production et de là découle une pénurie alimentaire et un marché noir venu de l'Ouest. On remarque aussi un important trafic de devises, la perte de la main d'œuvre et tout ça va mener la RDA en 1961, proche de la faillite, proche de la banqueroute. Et donc dans tout ça, il y a la guerre froide qui bat son plein et qui s'envenime. C'est un réel bras de fer à ce moment-là entre les États-Unis et l'URSS avec un point culminant en 1961. 1961, on remet en contexte, c'est Kennedy qui est au pouvoir, qui vient de subir un solide échec avec l'échec de l'invasion de la baie des cochons. Et l'URSS de Khrouchtchev se dit que c'est le moment de jouer de son influence. Et donc l'URSS, sous la demande insistante du président est-allemand Walter Ulbricht, va demander une mesure choc pour empêcher l'exode de l'Est vers l'Ouest au centre de Berlin. Car on passe de Berlin-Est à Berlin-Ouest à pied ou en métro. Tout simplement, il ne faut pas faire plus d'efforts que ça. Mais aussi, il y a pas mal de personnes qui habitent Berlin-Est, où les loyers sont moins chers, où il y a moins de taxes et d'impôts, qui vont, eux, travailler à Berlin-Ouest. Et donc, il y a un flux constant entre les deux entités. Berlin est également pris d'assaut par des candidats réfugiés polonais ou tchèques qui tentent, eux aussi, de parvenir à l'Ouest. Donc, il faut à ce moment-là trouver une solution. Et la solution, ce sera un mur de séparation au beau milieu de la ville. Alors côté Ouest, on sent que quelque chose se prépare, mais personne n'imagine l'érection d'un mur. Projet qui semble tant insensé qu'impossible logistiquement, compte tenu des lignes de chemin de fer, entre autres, et des lignes de métro. Mais qu'à cela ne tienne, l'Allemagne de l'Est met au point son projet secret et les travaux commencent dans la nuit du 12 au 13 août 1961 par la pose d'une barrière de barbelés autour de Berlin-Ouest. Ceux qu'on appelle encore les Alliés sont pris au dépourvu par l'ampleur et la rapidité et ils n'interviennent pas, vu qu'en fait, ils sont du beau côté et gardent tous leurs privilèges. Et puis aussi, la construction du mur se fait sous haute surveillance de militaires est-allemands et soviétiques, et ils sont prêts à en découdre. On risque alors un nouvel affrontement qui pourrait vite se révéler mondial, encore une fois. Et de toute façon, leur droit sur Berlin, comme je vous disais, reste totalement intact, donc on ne bouge pas.
Après la Première Guerre mondiale, on parlait de cordon sanitaire. Après la Seconde, de rideau de fer. C'était des expressions symboliques. Mais depuis le 13 août 61, à Berlin, il y a cette chose faite de béton et de barbelés, le mur.
L'idée d'une Allemagne socialiste est née parmi les victimes des camps nazis. La DDR, la RDA, est fière, à juste titre, de ses réalisations sociales et éducatives. Mais son régime policier pose des questions qui sont au cœur des tragédies de ce XXe siècle.
À l'avant-plan, les soldats de l'armée populaire, les Vopos, observent les confrères britanniques et ouest-allemands qui se trouvent à 50 mètres à peine de l'autre côté du mur. De part et d'autre, tout se modifie, jusqu'au nom de la place qui s'appelle Place de la Porte de Brandebourg à l'est, Place Hindenburg à l'ouest. La porte elle-même se trouve à l'est, elle sert de point d'observation pour les Vopos, dont on peut voir les silhouettes non loin du char qui représente symboliquement, par une amère ironie, la victoire de la paix.
Comment les victimes deviennent-elles bourreaux ?
Au cœur même de Berlin, entre les deux zones, il y a ce paysage, un des plus étranges qu'on puisse concevoir. Un paysage qui pourtant pourrait nous rappeler quelque chose. Ces miradors, ces chiens policiers, ce désert glacé de barbelés, de pieux et de ferrailles.
Comment un régime qui se proclame adversaire du fascisme et du militarisme allemand s'offre-t-il des orgies de militarisme du plus pur style prussien ?
Ce No Man's Land est une zone interdite, mortelle pour ceux qui s'y aventurent.
Outre le mur, les voies de transport public sont interrompues et totalement fermées. Les métros qui passent sous Berlin ne s'arrêtent plus aux stations de Berlin-Est, par exemple. Et comme au départ, il ne s'agit que, entre guillemets, de barrières barbelées, les pavés des rues sont retournés afin d'interrompre le trafic routier. Et assez vite, Berlin-Ouest est encerclé d'un mur de briques avec dispositifs de sécurité impressionnants. Alors voilà les alliés qui commencent à réagir à la construction du mur en se massant également, des militaires à la frontière de Berlin. Des communiqués provenant de différents chefs d'État condamnent le mur, mais mine de rien, rien n'est réellement tenté pour empêcher ce désastre pour les Berlinois de gauche ou de droite. Si ce n'est le 27 octobre 1961, au fameux Checkpoint Charlie, où les forces américaines et soviétiques se font face mais n'engagent heureusement pas le feu. C'est à nouveau un jeu d'intimidation qui se soldera par le retrait des blindés des deux côtés. Mais qu'en est-il du côté de la population ? Déjà, les Berlinois de l'Ouest ne pouvaient plus passer à l'Est depuis 1952. Mais ici, ce sont des familles entières qui sont séparées par ce mur. Des travailleurs de l'Est perdent leur emploi à l'Ouest, et le contraire est vrai aussi. Et malgré le mur, les Berlinois de l'Est tenteront toujours, par tous les moyens possibles, de franchir le mur, au risque de leur vie, que certains, beaucoup même, laisseront sur le béton. Et pendant 28 ans, ce mur, surnommé aussi, comme beaucoup d'autres murs par la suite, le mur de la honte, fera partie du décor de Berlin jusqu'en 1989. Cette année-là, ce sera l'année charnière. Mikhaïl Gorbatchev est à la tête de la Russie. Il instaure ses fameuses glasnost et perestroïka, cette transparence où on veut sortir d'un régime soviétique d'un autre âge, et aussi les États satellites de l'Union soviétique prennent des distances avec Moscou. Solidarnosc gagne les élections en Pologne, la Hongrie ouvre son rideau de fer et c'est une vague de liberté qui souffle et qui va contaminer également les Allemands de l'Est qui vont prétexter des vacances en Hongrie pour fuir vers l'Est. Alors au départ, ils ne sont quelques centaines, mais très vite, le mouvement prend de l'ampleur et ce sont des milliers. On dénombre quasi 250 000 Allemands qui, en quelques semaines, vont déserter via la Hongrie, mais aussi via l'Autriche. Les ambassades de RFA sont prises d'assaut, tant à Budapest qu'à Prague. Et puis en RDA, en Allemagne de l'Est aussi, la colère gronde. On assiste à des manifestations de toutes parts. Le 3 octobre 1989, ce sont 20 000 personnes qui défilent dans les rues de Leipzig contre le régime carcéral en plein air. Le 4 novembre, ce sont 1 million de manifestants en plein Berlin-Est. Gorbatchev, lui, est en visite en RDA pour célébrer les 40 ans de l'existence de l'Allemagne de l'Est. Et lui, il dit clairement, il exclut le recours à la force contre les manifestations. Le Parti communiste allemand, lui, peine à ramener l'ordre, il est littéralement débordé, surtout sans le recours à la force militaire. Du coup, il faut lâcher un peu de lest. Et par un manque de communication ou un concours de circonstances, eh bien, le mur ne sera plus. En effet, le soir du 9 novembre 1989, Günther Schadowski, qui est le secrétaire du comité central chargé des médias en RDA, annonce à la télévision, à une heure de grande écoute, une décision du Conseil des ministres concernant la législation sur les voyages. Cette annonce ne devait se faire que le lendemain. Une fois tous les organismes concernés mis au courant, la nouvelle réglementation est en cours.
On m'a informé qu'un communiqué a été distribué aujourd'hui. Vous devez être en sa possession. Donc des voyages privés vers l'étranger peuvent être demandés, sans condition, sans donner les raisons du voyage ou avoir des relations familiales. Les accords seront donnés dans un bref délai. Des sorties du pays peuvent être effectuées par toutes les frontières de RDA vers la RFA.
Est-ce aussi valable pour Berlin-Ouest ?
Oui, les sorties permanentes peuvent avoir lieu par tous les points frontaliers avec la RFA, ou bien par Berlin-Ouest.
Quand est-ce que ça rentre en vigueur ?
À ma connaissance, cela entre en vigueur tout de suite, immédiatement.
Le mousseux et les larmes coulaient à flot, ambiance folle pour une nuit historique.
La surprise a été complète, la stupeur totale, la joie débridée, une libération physique mais aussi une libération des esprits.
Around me scores of people have arrived, being held back by the police to watch this first incision into the Berlin Wall.
Et du haut du beffroi de l'hôtel de ville sonne la cloche de la liberté.
Quand est-ce que ça rentre en vigueur ?
À ma connaissance, cela entre en vigueur tout de suite.
Merci, merci beaucoup. Nous, on était en pleine discussion justement par rapport à cette histoire qui est assez incroyable de ces murs qui se construisent.
Et qui s'effondrent.
Et c'est ça qui est. Et c'est ça qui est joli. Ben, écoute, on te retrouve quand, Déborah, pour la suite ?
Pour un prochain mur ? Ben, je ne sais pas, mais je viendrai avec The Wall de Pink Floyd. Un autre mur.
Et on a hâte d'écouter ça. Et puis, chers amis, chers auditeurs de Radio Esperanza, de Radio Panique, de Radio Campus maintenant qui nous ont rejoints en cours de route, de Run, de UFM à Mons et plein d'autres encore qu'on oublie de citer.
Et
dans la montée, bien sûr. Ah, on nous entend encore, on nous dit encore diffusé dans la montée. Eh bien, bonjour à tous les festivaliers qui rentrent dans le festival.